VAR qui l'accorde pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable, à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
Mickaël Guigou, c'est à lui de faire le jeu maintenant, Mickaël. Allez, fais-nous rêver, fais du dribble.
Qui te fait transpirer sur Radio.
Et salut à toutes, salut à tous. Vous écoutez bien les sportifs du lundi sur Radio U. Sportifs du lundi, ça va être une émission un peu spéciale parce que chez nous, l'infirmerie est à peu près aussi pleine à craquer que l'armoire à trophées du Real Madrid. Mais bon, non, un seul être vous manque et tout part en cacahuète. Inès n'est pas là, mais on a Domain et Ellie dans le studio. Salut les gars.
Salut.
En pleine forme, hop, si je t'allume pas le bon micro demain, ça va pas le faire, ça va mieux marcher là.
Salut, tu m'entends? Ah ouais,
là c'est bon. Hop, et voilà, quand je disais un seul être vous manque et paf, la technique part en cacahuète. Donc aujourd'hui, un programme un petit peu particulier, pas d'invité, parce qu'on va avoir un débat sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui est d'ailleurs aussi la nouvelle formule de la Ligue Europa, mais nous on va se concentrer sur la Ligue d'Esch, puisqu'on espère bien que Brest va y être. Pas de tour des stades non plus, par contre, on n'oublie pas votre chronique géopolitique, mais on va commencer tout de suite, traditionnellement, par parler un petit peu de football. C'est un Batman John sur le beat de flanc. Est-ce qu'on commencerait pas par parler de ce terrible match hier? Je sais pas si vous l'avez vu, la défaite du Stade Brestois, 4-3 sur le terrain de Lyon. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Parce que dommage, j'étais direct entendu rire. Allons-y.
Alors, tout sourit à Lyon actuellement, c'était un très bon match, parce que Brest, malgré que Brest a été mené pendant, je crois, peut-être 40 minutes à peu près, et Brest s'est pas dégonflé, ils ont mis 3 buts en moins de 8 minutes, et ils ont continué à jouer. Et franchement, ce que Brest propose cette année, c'est vraiment, vraiment bien.
Non, c'est vrai.
Donc on espère que ça va continuer comme ça pour l'année prochaine, et surtout s'ils attrapent la Ligue des Champions, mais là, actuellement, c'est pas la bonne période pour Roger Lyon. C'est pas la bonne période.
Lorenzi dit que c'est jamais la bonne période pour jouer Lyon et que surtout les arbitres aiment pas tellement Brest et qu'apparemment ça dérange. Voilà ce qu'il a déclaré à l'équipe en listant un peu toutes les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu hier. Et c'est vrai qu'il y en a eu un paquet, mais des deux côtés, si on est un petit peu honnête quand même. Ellie, je t'ai coupé la parole, tu voulais réagir.
Je voulais réagir à ce que disait Domain, parce que c'est vrai que Brest a fait 8 environ super minutes où ils mettent 3 buts. Et même sur l'ensemble de la première mi-temps, ça joue quand même très bien. Il y a la parade de Lopez vers le début de match qui est incroyable. Après, évidemment, voilà, c'est un match qui restera un petit peu, des décisions arbitrales qui interrogent. Mais au fond, bon, ça reste un très beau match de football en tout cas. Et on est content pour Brest, évidemment.
Ouais, c'est clair, un très beau match de foot et Brest peut avoir effectivement des regrets. Déjà, quand mènes 3-1, faut savoir, comme dit Lorenzi, fermer le match. À un moment donné, tu peux pas faire ça quand tu t'ambitionnes de jouer une Coupe d'Europe, d'avoir porte ouverte derrière. Il y a peut-être eu un petit peu de peur. Après, effectivement, je comprends aussi le sentiment des Brestois qui rentrent à la mi-temps avec 1-0 dans la valise alors qu'on leur oublie un péno et qui tapent deux fois la barre transversale. Bon, ça, c'est sûr, c'est un peu les boules. Mais bon, il n'y a pas trop d'excuses.
L'apprentissage, après, j'ai envie de te dire, sans t'interrompre, Pierre-Luc. C'est un apprentissage, ils vont apprendre, c'est comme ça. Il vaut mieux apprendre maintenant et l'année prochaine, ça va faire un peu comme Lens. Après, bon, Lens, leur projet est un peu plus... bien présent, on voit quel est le projet. Mais
et puis développé financièrement aussi.
Aussi, parce qu'ils peuvent se permettre d'acheter Ouahi qui était en partance pour l'étranger et qui ont réussi à garder Eli Ouahi dans le championnat de France, international espoir. Mais non, c'est bien, c'est l'apprentissage. Donc, après, Lyon reste Lyon. Il ne faut pas oublier non plus que Le problème de Lyon, c'est que il y avait pas les joueurs. Après, l'institution, elle est ce qu'elle est. Lyon, ça reste Lyon, donc ça reste quand même un gros club du championnat de France. Et l'équipe, elle est bonne. L'équipe de Lyon, là, si l'équipe de Lyon démarre en pré-saison avec ces mêmes joueurs-là, c'est pas là, Lyon, pour moi, aurait pu jouer clairement le titre. Clairement.
Le titre, je ne suis pas tout à fait d'accord. À mon avis, ils sont quand même un peu en dessous de plusieurs équipes, à la fois sur le papier avec les joueurs qu'ils ont, les moyens, et puis dans le jeu aussi, où ça reste quand même un peu tendre et un peu jeune pour en jouer le titre quand on compare à certaines équipes qui sont, à mon avis, un peu plus costaudes, comme Monaco, etc., même dans une moindre mesure, Lens. Ou ce genre d'équipe, ou Lille. Mais ceci dit, bon, pour résumer, c'était un très beau match de foot. Les boules, on comprend qu'il y ait une défaite, parce que franchement, sur le papier, un match nul, ça n'aurait pas été immérité d'un côté ou de l'autre. Va falloir maintenant se reconcentrer pour le prochain match qui est à domicile et contre Monaco. C'est encore un gros qu'il va falloir se fader dans le championnat. Peut-être on passe rapidement quand même sur les autres matchs des clubs bretons, avec Nantes qui poursuit une très belle remontée depuis l'arrivée surprise d'Antoine Comboiré. Mais c'est vrai, on s'y attendait pas. On appelle un pompier de service qui s'est quand même fait virer à la même période la saison dernière. Il prend quasiment le même groupe de joueurs et puis là, il les transforme totalement. Encore une victoire à l'extérieur 1-0. Ça sent bon le maintien quand même pour Nantes.
Non, clairement, après, pour concernant Comboiré, c'était une décision de Valdemar Quitta, donc ça marchait bien avec le groupe, et c'était une question d'ego. Mais après, Comboiré, il fait vraiment du bon travail, et je pense qu'ils vont se maintenir. En tout cas, ils ont le vécu, quoi. Ils ont le vécu,
et puis même les points parlent pour eux, hein, parce que là, ils ont quand même déjà pris, que je fasse le calcul, 5 points d'avance sur Lorient, qui est le premier barragiste. C'est pas mal. C'est pas mal pour les Nantais.
C'est un bon petit matelas. Il reste 5 matchs, je crois. 5 ou 4 matchs, on est à la 21e journée là.
Ouais, on est à la 29e.
21e,
ouais.
Donc il restera 5 matchs. Et non, 5 points, c'est une bonne option, on va dire. C'est une bonne option.
Oui, c'est ça. Il n'y a rien de fait, mais c'est une bonne option. Par contre, ceux qui tirent la soupe à la grimace, évidemment, on précise que Lorient n'a pas joué, puisque Lorient doit jouer contre le PSG, mais match reporté. Ça aura lieu le mercredi 24 avril pour laisser les Européens se préparer aux Jeux européennes.
C'est bien ça.
Mais je voulais parler des Rennais qui, là, pour le coup, avec la défaite à domicile contre Toulouse, ça commence à sentir le roussi pour l'Europe. Hein. Rennes qui tombe à la 10e place, 39 points seulement, quand on voit que Lille, le 4e, est à 49. La place européenne de Lyon, pour l'instant, la 7e, est à 41. Quand on voit les dynamiques des clubs, 3 défaites de suite pour Rennes, ça va être dur, non ?
Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Après, j'ai envie de te dire que Julien Stéphan, je pense qu'il a la recette. Mais après, c'est qu'on arrive dans le money time, et là, il faut gagner les matchs. Et là, ça devient problématique pour Rennes. Mais comme je disais, c'est alignement des planètes. Hein. Rennes qui perd, il y a Reims, mais c'est pas un club breton, mais Reims qui perd, qui est 9e, je crois, qui est 8e, je crois,
Ouais,
8e. Et donc ça fait qu'il y a des équipes qui étaient bien parties pour, entre guillemets, être européens, et là, qui, dans le money time, dégringolent un peu, là. Donc on va attendre aussi pour Marseille, donc à voir.
Ouais, encore plein de suspense en tout cas dans cette Ligue 1. Si vous voulez bien, les gars, on passe à la Ligue 2, parce qu'on a quand même des clubs bretons qui sont concernés par cette Ligue 2. Et on va commencer en bas du classement avec un qui est pas au top de sa forme, Concarneau, qu'on avait vu faire un bon début de saison. Finalement, on trouvait que c'était assez honnête. Concarneau qui concède le nul à domicile, la contre Amiens 0-0, et qui est dans une position très délicate, puisque à la 18e place, et vous savez cette saison qu'il y a 4 descentes en Ligue 2.
Ça fait
assez mal, à 4 points déjà du premier Strapontin qui sauve, à la 16e place, occupée par Dunkerque. Donc on espère un retour des des tauniers de Concarneau. Voilà, c'est pas encore fini. Il reste 6 journées de championnat. Je vous laisse faire le calcul en termes de points. Il y en a encore pas mal à distribuer, mais il va falloir se réveiller assez vite. Pour le coup, les Guingampais, eux, sont dans une meilleure forme avec leur victoire 1-0 contre Dunkerque.
Ah, c'est bien ça.
Guingamp qui, finalement, et encore dans la course au barrage et au play-off, puisque à la 8e place avec 47 points, sont seulement eh bien, à 2 points de la 5e qui envoie directement en play-off. 5e place occupée pour l'instant par Laval. Finalement, l'espoir est permis pour Guingamp.
C'est la bagarre, hein. C'est entre Paris jusqu'à Paris FC jusqu'à Guingamp là, c'est Pau pardon, c'est la bagarre. Il y a même Amiens. Ouais,
De la 4e à la 10e place, quasiment ça se joue encore.
Ouais, ça se joue encore, ouais. Mais Concarneau, je pense qu'ils peuvent le faire, mais après ça, encore une fois, être pour jouer le maintien, il faut être préparé.
Ouais.
Et là tout à l'heure, on parlait de Nantes, ils ont des mecs comme Palois, des Moses Simon, donc les mecs sont préparés. Mais est-ce que Concarneau ce sera le cas?
Bah, Concarneau était à mon avis préparé à la lutte, hein, en montant tout simplement de National. Il s'attendait à mon avis pas à une saison des plus tranquilles, je pense pas. Et bah, c'est là-dessus que se termine notre point foot. On fait une pause en musique et on revient juste après ça dans les sportifs du lundi pour parler géopolitique du sport, les gars.
Yeah.
retour dans les sportifs du lundi sur Radio U. Vous le savez, d'habitude à cette heure-là on fait un tour des stades. Là les stades sont un peu déserts, il y a quand même moins de résultats, moins de rendez-vous. Le BBH par exemple va enchaîner un petit road trip comme on dit du côté du sud, puisqu'elles vont enchaîner en 3 jours 2 matchs du côté de Toulon et de Nice. Mais on avait envie de faire un petit focus nous Ligue des Champions, mais avant ça, parlons géopolitique avec vous et géopolitique du sport.
C'est fini, l'Allemagne remporte la finale de la Coupe du Monde. Bravo tout de même à cette équipe de la République fédérale allemande.
Alors, de quoi on cause aujourd'hui, les gars ?
Alors, aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Macron. Parce qu'il y a quelques jours, donc, je suis tombé sur des photos d'Emmanuel Macron postées par Soizic de la Moissonnière, sa photographe officielle sur Instagram. Et au fond, c'est assez drôle. Et il y a plusieurs choses à déballer, car ce compte est quand même suivi par 220 000 personnes environ. Et dedans, on y retrouve donc uniquement des photos en noir et blanc. Pourquoi ce choix ? Bah, je me le demande encore. En fait, j'ai essayé de trouver une réponse et je n'ai pas trouvé.
On voit moins les rides, je pense.
Ça doit être ça. Le noir et blanc, ça fait intemporel, ça fait un petit peu ancien. Moi, ça m'interroge puisque c'est des photos qui sont politiques, évidemment. Donc, pourquoi ne pas se placer dans le présent ? Je ne sais pas. Mais bref, l'important, ce sont les photos en elles-mêmes, car elles sont toutes évidemment scénarisées. On a des regards au loin, des portraits d'un sérieux absolu, et certaines aussi plus candides, comme s'il ne savait pas que sa photographe était avec lui dans le bureau, évidemment. Et pour notre sujet, il y a 2 photos qui m'ont particulièrement interpellé. La première, c'est une photo prise dans le contexte de sa rencontre avec Lula au Brésil, donc dans l'avion, main dans la poche, décoiffé et souriant. Il arbore un maillot de la CLSAO. Et encore une fois, le foot est central dans sa communication. Une autre photo du compte étant une peinture donc murale de Zinedine Zidane dans le contexte de sa visite à Marseille. La photo la plus frappante géopolitiquement, c'est celle du 19 mars dernier, où il s'est représenté donc les mains gantées, la musculature apparente, le visage trempé d'une transpiration particulièrement sportive et assénant un coup à un punching bag avec la tête qui va avec. Alors, donc cette photo donc, de boxe, elle n'est pas sans rappeler les photos liées au sport de Vladimir Poutine. Donc, on peut par exemple citer ses entrées en jeu lors des matchs de hockey professionnels, son esthétique martiale, on le voit souvent avec un kimono. Et à l'heure où Macron est particulièrement véhément et on peut dire offensif quant au conflit en Ukraine, comment est-ce qu'on peut interpréter cette nouvelle image politique qui est pourtant bien loin du centrisme d'Emmanuel Macron ?
Alors, ma réponse, ça sera en plusieurs volets. Le premier volet, c'est qu'on est passé d'un président en 2007, avec Nicolas Sarkozy, d'hyper-président qui était partout, qui occupait la scène médiatique, mais quand même pas possible, qui faisait tout. Ensuite, on a enchaîné avec François Hollande, qui était le président normal. Il s'est inventé comme le président normal, qui était comme juste un président, mais juste normal. Et enfin, on a Macron, le jupitérien. Voilà, c'est lui qui décide de tout. Et j'ai envie de vous dire que Macron, actuellement, il n'a pas le choix de se montrer, de se mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde très instable. Là encore, hier, il y a eu des missiles qui ont été lancés en Israël par l'Iran. Et ça montre qu'on est dans un contexte instable et où il faut que, géopolitiquement et surtout diplomatiquement, montrer qu'on est présent sur la scène internationale. Ça, c'est le premier pas. Premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on accueille les JO. Bon, ça, ouais, on est à 100 jours. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a répondu aux questions chez nos confrères de RMC. Et la chose qui se passe, c'est qu'on doit montrer, Emmanuel Macron doit montrer qu'il est le président qui tient réellement à son événement. Parce que si on se foire, c'est pas bon au niveau diplomatique. Parce que la France, encore une fois, c'est Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est le pays, c'est le pays qui est plus visité touristiquement. Donc ça, c'est un point essentiel pour l'image de la France. Et dernièrement, pour cette question, pourquoi se montrer avec le maillot du Brésil avec Lula ? Il faut savoir que la relation diplomatique avec la France était très compliquée quand il y avait Jair Bolsonaro. Il avait fait des attaques des attaques sur sa prétendue sexualité ambiguë et des attaques sur sa femme. Donc ça ravive quelque part les relations qui étaient fraîches entre le pays du Brésil et la France. Et comme le football apparaît toujours comme le vecteur essentiel qui permet de unir deux pays qui sont, on va dire, entre guillemets, en froid. Et là, le dernier exemple que je vais prendre, par exemple, c'était la France-Algérie. Bon, après, l'Algérie qui a une histoire particulière avec la France. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un match. On fait un match pour essayer de réconcilier les deux équipes. Mais bon, les deux nations, pardon, mais en espérant que ce match ait lieu, mais surtout avec une bonne issue, parce que ça s'était mal terminé. Donc voilà à peu près pour cette question sur Macron.
Eh ben merci les gars, mais par contre la question à laquelle on n'a pas répondu et que tout le monde se pose, Photoshop ou pas Photoshop, c'est Biscotto.
Donc selon la photographe, c'est pas Photoshop.
Ouais.
Selon moi, c'est peut-être un peu Photoshop.
C'est peut-être un peu Photoshop. Moi j'étais étonné, quand même, Eli m'a envoyé ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. Mais, en fait, si, c'est vrai. Bon, moi je pense pas. En vrai, je pense pas, il aurait pas d'intérêt à nous mentir. Après, c'est un politicien.
Oui. On va faire une pause là-dessus. Hein. Chacun aura son propre jugement. Évidemment, une pause en musique. Et on revient pour parler rapidement de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. À l'écoute de votre radio préférée, Radio évidemment 101.1, vous écoutez les sportifs du lundi. On avait envie de vous parler de la nouvelle formule de la Ligue des. Je ne sais pas si vous avez vu le truc passer, chers auditeurs et auditrices, mais l'année prochaine, si nos Brestois sont bien qualifiés en Ligue des Champions, il va y avoir une nouvelle formule. Déjà, la phase finale de la compète va passer de 32 à 36 équipes. Et puis, terminer ces histoires de groupes, etc. Il y aura finalement une espèce de poule unique avec quand même nos fameux chapeaux. Hein, faut pas oublier les chapeaux. Et grosso modo, chaque équipe va affronter deux équipes de chaque chapeau. Chapeau numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ce qui fait donc 8 matchs. Pas de match aller-retour, c'est des matchs du coup secs. Et ce qui permet d'affronter plus d'équipes, d'avoir plus de matchs aussi sur la phase aller. Et ensuite, on a donc un truc un peu plus compliqué, c'est-à-dire que les 8 premiers de ce championnat unique sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Ensuite, de la 9e à la 24e place, là, il y a des barrages où les équipes s'affrontent pour accéder à ces 8e de finale. Et toutes les autres, en dessous de la 24e place, c'est merci, au revoir, pas de rattrapage, pas de barrage, pas de reversement en Ligue Europa. Tout simplement, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle formule ? Je sais pas qui veut commencer. Élie, t'avais l'air parti.
Je vais commencer. Donc, qu'est-ce que je pense de cette nouvelle formule ? Déjà, j'ai envie de dire qu'on attend de voir au final, parce que bon, là, c'est beaucoup de... Comment dire ? C'est beaucoup de termes. On sait pas trop à quoi ça va ressembler au fond. Après, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a plus de matchs. Pour les fans, évidemment, c'est positif. Il y a peut-être aussi l'idée un petit peu de concurrencer la Super League qui arrivait avec justement le postulat que les gens se désintéressaient du foot. Les jeunes notamment, je ne sais pas si c'est vrai statistiquement, mais il y avait ce postulat-là. Donc voilà, il y a l'idée de faire plus de matchs. Du côté des fans, évidemment, c'est positif. Du côté économique pour le football, ça l'est aussi sûrement. Pour les joueurs et les coachs, je pense qu'il n'y en aura aucun qui sera content de cette nouvelle mesure parce que 8 matchs, ça fait quand même... ça fait deux matchs de plus, évidemment. Pour les gens qui ne vont pas se qualifier, ça fait 2 matchs supplémentaires pour arriver jusqu'au 8e de finale. Et je vais... Demain, si tu as quelque chose à dire.
C'est pas clair. Déjà, rien que là, on est là, on discute, mais c'est pas clair, en fait. C'est pas... Moi, je pense que la Ligue des Champions, enfin, l'UEFA est en train de plus de perdre les fans qu'autre chose. On a vu les derniers matchs, la Ligue des Champions, Arsenal-Bayern, PSG-Barça... City Real, et le dernier c'était. Je crois que c'est tout. Et ces matchs-là, dans le contenu, déjà, premièrement, c'est pas ennuyé. Ça veut dire que pour la plupart des observateurs, la Ligue des Champions, elle commence réellement en quart de finale. Donc, ça, c'est un argument pour la Super League. Donc, là, ok, ils vont faire plus de matchs. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. À part. Qu'il y ait plus de blessures pour les joueurs, donc la santé physique des joueurs, qu'il y ait plus de blessures et qu'il y ait des matchs sans intérêt, je ne vois pas clairement le plus de ce nouveau format, hormis le fait que ça va donner un argument de plus à la Super League et qui, pour moi, le football a besoin d'un changement au niveau de sa perception.
Alors c'est marrant ce que tu dis parce que la tentative de l'UEFA, c'est ce qu'ils mettent sur leur site internet pour justifier le changement, c'est que ça va donner plus de matchs intéressants dès la phase de poule, parce que possibilité qu'il y ait plus de matchs entre des gros clubs dès le début. Bon, voilà, ouais. ça c'est leur interprétation, hein. Moi je livre juste ce qui est marqué sur le site internet. Et l'autre chose, c'était de permettre à des petits clubs d'avoir plus de confrontations aussi avec des grosses équipes, et donc pouvoir se mesurer, se jauger, etc. Et c'est vrai que nous, admettons Brest peut accueillir la Ligue des Champions, bah ouais, ça peut être marrant d'avoir un match contre le Real et un match contre le Barça, et puis un match contre Arsenal, et on serait très content, même si l'équipe va forcément se faire déboîter. Voilà un petit peu ce qui est ressorti des différentes discussions et surtout ce que met en avant l'UEFA. Par contre, effectivement, il n'y a rien et aucune trace de ce que vous dites sur le site de l'UEFA, sur la multiplication des matchs, puisque ça fait déjà au minimum 2 matchs de plus en phase de groupe et potentiellement un 3e si on n'est pas dans les 8 premières équipes. Donc rajouter 3 matchs dans un calendrier qui est déjà surchargé, effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a un paquet de coachs et de joueurs qui vont faire la gueule.
Mais ça, quand vous regardez bien la Ligue des Champions, que ce soit en phase de poule, quand les grosses équipes se rencontrent, en soi, les équipes, les grosses équipes qui jouent les titres, qui jouent les 3 compétitions, elles ne sont pas prêtes en août. Elles arrivent en pic de forme février, mars. Là où les matchs comptent. Ils arrivent en pic de forme au printemps. Donc, l'argument de Brest qui rencontre un gros club, vu que c'est la première fois qu'ils vont aller en Ligue des Champions, je crois qu'ils seront dans la poule, un peu dans le chapeau 4, je crois, le dernier chapeau, un peu comme Lens.
Ouais, tout à fait.
Ça a donné des matchs. Lens a joué Séville, a joué Arsenal et a joué le PSV. Donc, c'est aussi des très bons matchs.
Oui, complètement.
Oui, mais le format actuel est bon. Je pense que le format actuel est bon. Et en plus, ça fait une sorte de progression. Là, qu'il y ait des gros matchs tout de suite, je suis un peu sceptique.
Je suis d'accord.
Complètement d'accord. Hein. Pour moi, c'est juste une espèce d'embrouille de l'UEFA pour pouvoir diffuser plus de matchs égale plus de pognon, égale plus de sponsors, etc. Et puis, il fallait intégrer 4 nouvelles équipes. Donc, comment on fait sans recréer un groupe et perdre tout le monde ? À mon avis, ça se joue juste à ce niveau-là.
C'est ça. Et puis, surtout que les matchs entre les tops équipes pendant la phase de poule ont en fait très peu d'intérêt. Puisque quand on est dans le chapeau 1, par définition, on va affronter 2 équipes du chapeau 1. Et toutes les autres des chapeaux inférieurs. Ça veut dire que les deux matchs contre les top équipes auront quasiment pas d'importance puisque tous les autres matchs y partiront favoris.
Ouais.
Donc au fond, voilà, ça dénature un petit peu les chapeaux aussi.
Mais moi, j'ai tendance à penser que ça favorise surtout les gros. Hein.
Ça favorise les gros.
C'est un peu dire, bon, on ouvre, c'est bien, il y aura quatre petites équipes en plus, etc. On essaie de vous faire un truc sympa pour que vous ayez des paillettes dans vos stades pourris avec des pâquerettes, mais vous allez quand même perdre à la fin.
Ouais, bien sûr.
Moi, je le vois un peu comme ça.
Mais ça ouvre aussi une autre question, si on prend un peu plus de hauteur, l'économie du foot. Vraiment, pour ma part, l'économie du foot, elle commence à être à perte. Vraiment, l'économie du foot, elle commence à... Arsène Wenger l'avait bien dit, on est dans une bulle financière qui est très compliquée. Et OK, plus de matchs, donc plus de fans, enfin, c'est très bien. Mais là, maintenant, on doit repenser le football. Et des initiatives comme celle de Gérard Piqué avec la Kings League, avec des règles un peu farfelues, des matchs qui durent 30 à 40 minutes, je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est une voie dans laquelle il faudrait juste regarder et ne pas avoir de mauvaises a priori. Voilà.
Eh bien, pourquoi pas un prochain débat sur la future économie du foot. Merci en tout cas les gars. Une pause en musique et on revient pour le quiz. toujours à l'écoute des sportifs du lundi, toujours à l'écoute de Radio U101. Devinez, tiens, qui est dans les studios. Salut Flavie.
Salut Pilou, salut les sportifs.
Salut.
Ça va ?
Ben ouais, carrément, on va causer d'un sujet bien d'actu, hein, dont vous venez d'ailleurs de parler. On va tester vos connaissances sur les Coupes d'Europe, et puis un peu les belles perfs des clubs français, tout ça.
Ouh là là, c'est parti. Oula. Okay.
Et on commence à embarquer à bord de la machine à remonter dans le temps. Quel est le premier club à avoir remporté la Ligue des Champions ?
Reims.
Marseille. Marseille.
Non. Madrid, c'était contre Reims, mais c'était effectivement en 1956, c'était le Real Madrid. Bravo, un point pour demain. Question numéro 2.
C'était beaucoup trop drôle de dire Marseille.
Alors, deuxième question. Quel joueur français marque un doublé contre l'OM en finale de Ligue Europa 2017-2018 ?
Griezmann.
C'était Griezmann, bravo demain. Il est en forme demain ce soir.
Au stade de Lyon en plus.
Oh bah bravo, il y a tous les points. Troisième question, quelle équipe française élimine le grand Barça chez lui lors d'un match retour qui reste dans les mémoires ?
Le PSG.
Metz.
C'est Metz.
Mais ah, ouais les gars, c'est beaucoup plus vieux que ça, c'est Metz.
C'était lors du printemps 84. Quatrième question, quel club français remporte la demi-finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus en 96 ?
Marseille ?
Non.
C'est pas Monaco ?
Bordeaux.
Non.
Nantes.
C'est Nantes.
Yeah. Oh là là.
Demain, on fire. Yeah. Cinquième question, un peu technique celle-ci. Face à quel club grec l'attaquant d'en avant Guingamp, Claudio Beauvue, plante un doublé lors de
l'Olympiakos.
Panathinaikos.
L'AEK Athènes.
Le Panathinaikos.
C'est
Panathinaikos.
Panathinaikos. C'est ça.
Pas au Salonique, c'est ça ?
Ah non,
mais j'ai dit la réponse du coup. Voilà. Le point à personne. Mais j'ai même pas pu finir, c'était en 2014. Mais voilà, elle était un peu longue cette question en fait, je vais même pas la refaire. On finit avec la sixième question, à qui sera ce point ? Quelle Coupe d'Europe a été la plus remportée par des clubs français ?
L'Europa League.
Eh non.
La Ligue des Champions.
La Coupe des Coupes, la
non.
C2.
Non.
Ah, la Coupe Intertoto.
C'est la Coupe Intertoto. Exactement.
Non, mais ça c'est vieux les gars.
Qui a été supprimé en 2008 pour cause d'impopularité. Tiens.
C'était pire que l'Europa League Conférence. Personne n'a regardé ce truc là.
Voilà. Et donc c'est Domain qui gagne le quiz de ce soir. Bravo.
Bien joué,
encore
Domain.
Gagné. Non les
bien
gars.
Joué,
non. Ça fait 3 mois d'affilée je gagne. Je gagne trop.
Ouais. Bon, on va arrêter l'émission d'ailleurs. C'est fini là-dessus. Et ben merci beaucoup Flavie pour ce quiz. Félicitations Domain pour cette troisième victoire de suite. Ellie, je sens qu'il va falloir qu'on se bouge pour déloger Domain de sa place de vainqueur. Là-dessus, je vous laisse tous et toutes passer une très bonne soirée à l'écoute de Radio U. Juste après, vous avez le droit à Classico sur les ondes.
Bonne soirée.
Ouais.